Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et voilà, au sommaire de notre émission, eh bien, on va commencer par un entretien avec un romancier, un auteur d'un très beau roman avec lequel je me suis régalée, et puis ensuite des livres qui nous ont interpellés.
Histoires de camions.
Je parlais d'un romancier, Patrick Coudreau, bonsoir et merci de nous rejoindre.
Bonsoir, je suis tout à fait heureux de vous rejoindre.
C'est très gentil. Premier roman avec Maître des Eaux. Alors je précise que Maître, c'est M-A-I-T-R-E, parce que quand on parle, il y a beaucoup d'homonymes. Il est sorti en janvier à la Manufacture de Livres. Avant de parler du roman et de sa genèse, je crois savoir que vous êtes journaliste.
C'est-à-dire que je l'ai été, puisque je suis tout juste à la retraite.
Oh, c'est un sujet délicat, la retraite.
Oui, plus ou moins. Lorsqu'elle est bien occupée, bien remplie, il n'y a aucun souci.
En tout cas, ça m'a l'air, et puisque je pense que c'est un roman qui a commencé pendant votre activité, ça va, l'écriture va certainement beaucoup occuper votre temps. Maître des Eaux, donc, premier roman, un roman noir. Dans la sphère polar, c'est typiquement un roman noir, parce qu'il n'y a pas une enquête particulière. Et il met en scène, d'un côté, on a Mathias. On va pas mal parler de ce personnage principal. Et de l'autre côté, je dirais contre un village de la France profonde. Et je me suis demandé, de Mathias le céleste et du village bien enfoncé dans sa gang de bêtises, quelle a été la genèse du roman ?
Eh bien écoutez, pour tout vous dire, c'est un roman que je ne pensais pas écrire. Lorsque je l'ai entrepris, j'ai tendance à dire que ce sont mes doigts, pour commencer, qui l'ont écrit, puisque je sortais d'un certain nombre de manuscrits non publiés, donc d'un certain nombre d'échecs, et mes doigts, qui ne peuvent jamais s'arrêter, se sont tournés vers le clavier et ont commencé quelque chose auquel je ne croyais pas tout à fait, pour commencer. C'est une histoire absolument vraie. Et bien entendu, il y a eu les doigts, et puis l'esprit a suivi. Et lorsque je me suis rendu compte que cette histoire ressemblait à quelque chose qui tenait absolument bien la route, quelque chose qui venait du plus profond de moi-même, très certainement, assez différent de ce que j'avais écrit jusqu'à présent, je me suis dit qu'il y avait un champ d'action, un espace pour un livre qui est devenu Maître des Eaux.
Et donc vous dites que c'est inspiré d'un fait réel ?
Ce n'est pas inspiré tout à fait d'un fait réel, mais c'est vrai que je suis un observateur depuis longtemps d'un certain monde rural et semi-rural, et que j'ai souvent, comme journaliste, été amené même à traiter certains faits divers. Et j'avais un petit peu en tête cette difficulté, cette âpreté du monde rural, des gens qui quelquefois sont un peu décevants, qui ont un univers souvent très très beau, où qu'on soit en France, et puis qui sont tout de même assez cruels entre eux, envers d'autres. Et j'avais entendu un fait divers dans le Cantal, qui relatait la difficulté qu'avait eu un jeune paysan, non pas revenu à la terre, mais venu à la terre par rapport à ses voisins, parce qu'il avait envie de faire un peu autrement, de faire autre chose. Eh bien, on l'a mis plus bas que terre, il a été mis à genoux, et j'ai trouvé que c'était dramatique. Mais il y a 10-12 ans de ça, et bien, il faut croire que la mémoire enregistre beaucoup, et elle archive énormément. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui m'a inspiré. C'est vraiment un besoin profond de dire les choses un peu de la terre et de la vie.
Alors la terre, la vie, oui. Puis il y a ce Mathias. Mathias Grevitch, est-ce que je prononce bien son nom ?
Tout à fait.
Parce que les villageois le prononcent moins bien, et puis il affuble de surnoms.
Tout à fait.
Et donc, par rapport à l'histoire que vous venez de raconter, Mathias, lui, revient se venger de ceux qui ont brisé sa famille des années plus tôt. On ne racontera pas plus de l'histoire.
Oui.
Mais ce Mathias, petit-fils de Stanislas, il semble avoir un don. Et je voudrais que vous nous racontiez un petit peu qu'est-ce qu'il a comme don. Est-ce un don ou tout simplement une faculté de se rapprocher des éléments ?
Il a un don qui peut être double, c'est-à-dire que il se rappelle que son grand-père avait réussi, pour les besoins de l'exploitation familiale, à détourner un cours d'eau. Et ça l'avait frappé. C'était un enfant à l'époque de 8-9 ans, ça l'avait frappé de voir ce grand-père qui qui versait dans des psalmodies, etc., et qui parlait aux éléments. Et lorsque le grand-père a disparu, il a souhaité que Mathias hérite de ses capacités, de ses possibilités. Et en fait, effectivement, Mathias a un certain don, un certain pouvoir vis-à-vis des éléments. Mais on va voir tout au long de l'histoire, d'ailleurs, que par moments, ses pouvoirs lui glissent un peu des mains, ce qui va être très très compliqué pour échapper aux gens qu'il traque.
Heureusement d'ailleurs, parce que le roman eût été plus court. Un tout petit extrait pour illustrer ce que vous venez de dire. Quelques jours plus tard, le vieil homme entreprenait de confier à Mathias quelques-uns de ses secrets pour défier les dangers, apprivoiser la nature. Pas la mort, c'est impossible, mais au moins essayer de faire en sorte que la vie gagne le plus souvent possible. Au moment de quitter les siens, il lui avait remis un carnet de cuir brun et limé contenant des règles, avait-il dit. Des formules et des gestes à assimiler. Ton père n'a jamais su les apprendre et les mettre en pratique. C'est bien dommage, avait-il soufflé entre deux grimaces provoquées par la douleur. Donc le grand-père est mort. Mathias revient des années après pour une espèce de, enfin, pour se venger. Et de là, on découvre cette histoire de ces étrangers, qui plus est juifs, qui ont, comme vous parliez de cette histoire vraie, tout de suite été rejetés par la famille et pire, rendus responsables de tout ce qui arrivait finalement, de tout ce qui arrivait de mauvais, bien évidemment.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, la famille de Mathias a été traitée comme des gens qui d'abord viennent d'ailleurs, ce qui n'est pas souvent bien vu, qui possèdent un certain don, mais en oubliant que le premier don qu'ils possédaient était le courage, l'envie de faire des choses et de vivre heureux dans un pays donné. Et là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, il y a un esprit de vengeance. On n'aime pas la différence, on n'aime pas l'autre. Et il y a eu tout un village, au fond, qui s'est braqué et qui a accompli le drame qui sert de point de départ au roman. Sans rien dévoiler, il faut le dire tout de même, c'est l'exploitation prend feu et ce n'est évidemment pas accidentel. Mm. Donc, Mathias revient des années après avec, en effet, au départ, je dirais un pur esprit de vengeance, ce n'est pas impossible à dire, c'est vraiment ça, un pur esprit de vengeance. Et puis on va se rendre compte que c'est plus qu'une vengeance. En tout cas, c'est une vengeance qui s'accomplit hors norme. Elle s'accomplit finalement entre les gens qui vont le traquer. Et il y a une espèce de justice, une espèce de d'épée de Damoclès qui tombe sur ces gens qui sont vraiment de sales types, il faut bien le dire.
Oh justement, les villageois, alors voilà, on va en parler. Donc je parlais du village contre Mathias. Alors moi je dirais que je nuancerais un petit peu. Les villageois, il y en a deux types. Il y a ceux qui suivent Préret qui est devenu maire depuis les événements. C'est ça. Là, vous êtes vraiment sans pitié avec eux.
Absolument.
Et je dirais même que vous allez jusqu'à la caricature et que c'est voulu, que c'est revendiqué pour montrer leur vilainie en fait.
Tout à fait. Et puis je dois vous dire que je crois assez au manichéisme, contrairement à ce qu'on pense souvent. Je pense que malheureusement, il faut savoir reconnaître qu'il y a des gens qui incarnent vraiment le mal et puis il y a ceux qui sont quand même un peu meilleurs. L'être humain n'est pas parfait, mais il y a des gens qui abondent dans un sens plus que dans un autre. Et ce Préret est quand même quelqu'un qui est redoutable, qui est terrible. Il cumule beaucoup de défauts, c'est-à-dire une espèce d'ambition, d'arrivisme, un manque de finesse, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
C'est un maltraitant, puisqu'il maltraite sa femme, il maltraite
sa
fille de sa femme, hein, qu'il adopte, une adolescente qui va jouer un rôle très important dans le roman. Mmh. C'est quelqu'un qui est très très mauvais et qui est capable d'aller jusqu'à tuer, sans parler de Mathias Grévis, mais il peut tuer les gens qui sont avec lui, de sa bande de scélérats.
Mmh. Petit extrait. Comment vous présentez, enfin c'est quelqu'un d'autre qui présente Préret. Préret et sa bande de vauriens au prix du galon, si je puis dire. À Brissol, ils font la pluie et le beau temps. Surtout Préret depuis qu'il a été élu. Il est loin d'être subtil, comme vous l'aurez constaté. C'est justement un type comme ça, comme lui, qu'il faut aux gens d'ici. Grande gueule, menaçant, combinatoire, faucheton, ayant toujours le dernier mot. Et pour ce qui est de la haine, il n'a rien perdu, bien au contraire, de celle qui était son moteur à l'époque. Je l'appelle l'écarisseur. Voilà, on ne fait pas dans le détail, mais de gens comme ça, finalement, bah, on en a entendu parler, on en a côtoyé. Et puis, deuxième type de villageois, et je dirais, c'est les plus innocents, mais c'est peut-être les pires. C'est ceux qui n'ont rien dit. C'est ceux qui, depuis des années, se taisent et n'ont pas osé se lever pour dire les choses, pour dire la vérité et défendre les innocents.
Absolument, absolument. Et ça, j'ai à cœur de souligner cet aspect des choses parce que, évidemment, à partir d'un roman, on veut aller plus loin. Surtout quand on en a écrit plusieurs, même s'ils n'ont pas vu le jour. Dès lors qu'on fait un roman, on parle de la société. Et cette société, aujourd'hui, souffre de quoi ? Aujourd'hui, et bien avant aujourd'hui, hier, souffre d'une certaine lâcheté, d'une couardise. Et malheureusement, l'histoire est pleine de cette lâcheté. On sait qu'il y a des gens qui savaient, qui savent des choses, qui les voient, qui effectivement ne participent pas, mais qui ne dénoncent pas, qui ne disent rien. Et ça, c'est redoutable. Et c'est ce qui se passe dans ce roman, et c'est ce qui se passe dans la vie, parce que tout ce que j'écris, même si j'ai commencé par la poésie, c'est très, très réaliste.
Comme vous l'avez dit, les événements vont se produire, des vengeances vont intervenir, il va y avoir des accidents, des morts, tout ça un petit peu de manière naturelle, surnaturelle, inopinée. Mais entre Mathias et les villageois, il y a deux choses que vous avez mis au milieu. Le premier, c'est d'abord la nature. Le pays, les falaises, la forêt, maléfique ou bénéfique. Ça, on sent que vous vous régalez à décrire ces lieux.
Tout à fait. La nature est quelque chose de fondamental à mes yeux. Et je m'inscris volontiers dans ce courant américain qu'on appelle le natural writing, qui était largement servi et qui existe encore très très fortement aujourd'hui. Il y a un besoin chez moi depuis toujours, et ça ira encore, j'espère, encore plus fort dans les livres à venir, de célébrer la nature. Et la nature est quelque chose de souverain, c'est une mère matricielle, on revient à la nature et il faut y revenir. C'est pas pour surfer sur les modes, mais il faut dire que la nature nous apprend énormément, nous conforte. C'est une sorte de ventre maternel, c'est extraordinaire.
Et
pour Mathias Grévy, ça va être formidable. Mmh. Et comme il sait lui parler, eh bien, il va y avoir des choses, des osmoses qui vont se produire.
C'est en cela que vous instillez le doute, parce que Mathias a des dons un peu surnaturels qui viennent peut-être d'ailleurs de certains livres religieux, de certains commentaires religieux. Mais des fois, on se dit que finalement, il n'a pas de dons, il sait simplement se fondre dans cette nature.
Il y a ça aussi, absolument. Mmh. Il y a une communion entre eux, il y a une harmonie. Et ça, c'est extrêmement symbolique. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'il va, pour échapper à la traque dont il est victime, prendre de la hauteur sur tous les plans, il va trouver refuge dans une grotte. Mais c'est quelque chose de presque de primitif. Mmh. On revient presque aux origines. Et c'est formidable. Pouvoir se cacher dans une grotte pour échapper à des gens, pouvoir avoir la complicité des vautours fauves qui sont tout autour, reconnaître leurs signes, leur façon de se comporter pour donner l'alerte éventuellement, c'est capital. Il y a aussi le renard, qui est en compagnie, qui est tout un symbole aussi de la vie et de ce que peut apporter un animal à l'être humain et de ce que l'être humain peut apprendre de l'animal.
Et puis, alors donc, entre il y a la nature, entre Mathias et le village, qui va jouer un rôle important, et puis il y a pour moi le personnage principal, c'est la petite fille. C'est Elia, il y a son chien, Babine. Et Elia, elle représente en fait une forme d'innocence dans ce roman.
Une forme d'innocence et en même temps un immense réalisme. Et là, je m'interrogeais aussi sur ce que peuvent aujourd'hui dans notre société, vous voyez, on y revient toujours, parce que je veux toujours aller au-delà. Elle représente cette passerelle de la connaissance, de la volonté de dire les choses. De faire le lien entre différentes générations. Elle juge sa grand-mère. Elle la juge très, très fortement, très vertement. Mais comme aujourd'hui, certains adolescents, sans faire de démagogie, peuvent nous juger, nous. Et on a des comptes à rendre. Il faut dire les choses. Ne serait-ce que pour les accompagner demain, pour faire bien.
Et c'est vrai qu'on a quelque part un peu un roman d'initiation, puisque au départ, Elia, elle représente l'innocence, elle représente aussi un peu l'insouciance, quand elle arrive comme ça, au milieu de la forêt, voilà, avec son chien. Et puis, on sent qu'elle acquiert une connaissance, justement, et qu'elle ouvre les yeux, finalement.
Absolument. Et puis, elle a un rôle capital. au bien moment sûr. Où Mathias a un doute sur ses dons, eh bien, elle l'encourage à y croire à nouveau pour qu'il puisse se sauver, pour qu'il puisse se venger, bien sûr, mais aller plus loin, pour qu'il puisse se sauver, échapper à ces gens-là qui, évidemment, ne lui arrivent pas à la cheville. Elle est là, elle est une force pour lui.
Et Elia, donc, voilà, va aussi user de ses petits pouvoirs, parce qu'on a l'impression aussi que, quelque part, elle a un don. Et autre élément important, alors justement, j'emploie le mot « élément », le livre s'appelle « Maître des eaux », l'eau a son importance. On a vu que vous décrivez beaucoup la nature, donc autre élément, la terre, pas mal importante aussi. Et puis enfin, il y a le feu. À plusieurs reprises, vous avez parlé de l'incendie, mais le feu a aussi un rôle essentiel dans la narration.
Tout à fait. Parce que, c'est, d'ailleurs, ça vient un petit peu de ce que j'ai vécu. Le feu m'a souvent suivi là où j'habitais. Donc, vous voyez, rien n'est complètement innocent. Ce texte, quand je disais qu'il est parti de mes doigts, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient en moi, qui a ressurgi. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans ma vie, c'est un détail, je fermerai vite la parenthèse, j'ai été un peu poursuivi par le feu, oui, voilà. Et ce sont des éléments très très forts. Il y a le feu, il y a l'eau, bien entendu, il y a aussi le vent, il y a les éléments.
Oui, il y a tous les éléments.
Ah oui, j'ai besoin d'une vision complètement cosmique, mais qui soit pas absconce, pas abstraite, quelque chose que l'on puisse toucher.
Oui, parce que vos personnages sont les pieds très ancrés dans la terre, justement.
Absolument, absolument.
Alors, vous disiez que vous aviez écrit beaucoup, que là, c'est le premier publié. Donc, je suppose qu'il y en a un autre dans les tuyaux, comme on dit, qui va...
Absolument.
Est-ce que
absolument.
Vous reprenez comment ça se passe là dans l'esprit d'un auteur qui a déjà pas mal écrit puis qui voit son premier roman publié? Est-ce qu'on va refouiller dans les tiroirs ou est-ce qu'on imagine de partir sur une histoire totalement nouvelle?
Non, j'ai horreur de fouiller dans les tiroirs. J'ai besoin de créer des choses nouvelles. J'avance en âge comme tout le monde. J'avance dans la vie. Il y a tellement de choses à décrire. Moi, je dirais à célébrer, puisque c'est aussi mon pinceau, mais mon point de vue. J'ai besoin de célébrer les choses, les gens, et il faut que j'invente tout le temps des choses nouvelles. Même si tout ce qui a été écrit avant, à commencer par mes recueils de poèmes qui ont été publiés, m'ont apporté, bien entendu, énormément. C'est-à-dire que c'est en moi, et tout ça arrive à une grande maturité, et le fait d'avoir enfin trouvé un éditeur qui a cru en Maître des eaux et qui croira peut-être en d'autres livres, eh bien, évidemment, ça me stimule. C'est-à-dire que là, mes capacités vont, je l'espère, aller en rayonnant, en étant encore plus forte que jusqu'à présent.
Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Patrick Coudreau, on arrive à la fin de cette première partie d'émission, donc on vous remercie beaucoup. Et puis,
moi,
je cite, donc, Maître des eaux, avec une très belle couverture, et c'est cet excellent éditeur, la Manufacture de Livres. À bientôt, Patrick Coudreau, et merci beaucoup.
Bientôt, merci beaucoup à vous.
On se retrouve dans quelques instants dans la deuxième partie d'émission. À tout de suite.